Europe 1, 11h30, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bonjour, bienvenue dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être dédiée au mieux vivre et à votre santé également. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors au programme aujourd'hui, on va commencer comme chaque matin par une question de notre quotidien. Aujourd'hui, la voilà, est-ce compliqué de faire du sport en hiver?
Eh oui, c'est une bonne question Mélanie, car soyons honnêtes, dès que les températures baissent, on devient tous un peu marmottes, comme si on était engourdis par le froid. La flemme est plus grande pour aller ne serait-ce qu'à la salle de sport et alors quand il s'agit de pratiquer de l'activité physique en extérieur, ça se complique encore plus. Alors comment trouver la motivation pour rester actif? Quelles sont les précautions à prendre pour se bouger en hiver en toute sécurité? C'est Anouk Garnier qui sera notre guide ce matin. Elle est coach sportive et championne de course à obstacles.
Et puis Julie, à 11h35, une fois que ce sera bien échauffé niveau sportif, on passera à notre dossier santé du jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à nos fesses. Si malgré tout le sport que vous pratiquez, elles ne sont toujours pas à votre goût, même si vous êtes complexé. Aujourd'hui, la médecine ou la chirurgie esthétique propose des solutions. Pour en parler dans le détail, nous recevrons le docteur Gilbert Zakine. Il est chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP.
Ensuite, Mélanie, à midi, il y aura la partie tendance de bienfaits pour vous, avec comme tous les jours de la gastronomie. Et pour ouvrir cette séquence, c'est le chef pâtissier Geoffrey Cagne qui sera aux commandes aujourd'hui. Il va nous parler d'un aliment qui fait l'unanimité en dessert, le chocolat. Et il nous donnera même une petite recette originale, mais simplissime, pour le sublimer à la maison. Juste après cela, on passera aux tendances des jeunes, comme on dit, décryptées par Séverine Pierron. Elle va nous expliquer pourquoi les jeunes de la génération Z, nés pourtant avec le numérique, ne veulent plus entendre parler de rencontres sur Internet.
Et enfin, Julia, pour terminer ce magazine en beauté, on aura la chance d'écouter les conseils mode de Sophie Braffman, bien sûr. Ce midi, elle va nous parler personal shopping. Et ça simplifie les choses quand on déteste faire les magasins, vous verrez.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 et dans votre magazine Bien-être Mieux Vivre aujourd'hui, comme tous les jours, on va tenter de vous rendre la vie plus agréable. Et pour cela, on va démarrer ce vendredi par cette question. Est-ce compliqué de faire du sport en hiver? Comment faire pour que notre motivation ne soit pas toute gelée, Mélanie?
C'est clair, Julia. Même quand on fait du sport en intérieur, c'est parfois difficile à cette période de l'année déjà. Et ce sera encore pire en décembre, en janvier. Simplement de trouver la motivation d'aller à la salle de sport. Alors comment faire pour faire surgir en nous cette envie sportive? Une fois qu'elle est là, comment rester régulier et surtout ne prendre aucun risque à faire du sport, même dans le froid. On va s'intéresser à tout cela avec notre invité. Mais juste avant, on va voir ce qu'en pense notre Clément Lanou national. Bonjour Clément. Bonjour.
Salut
Clément.
Salut les sportifs.
Voilà, vous, l'hiver comme été, elle est là, la motivation.
Mais moi, c'est sport, ouais. C'est matin, midi et soir. Bah oui. Je suis tombé dedans très jeune, c'est une drogue, j'arrive pas à m'en sortir, j'essaye. Et je vais essayer de vous transmettre ce virus du sport, justement. Aujourd'hui, on va parler du sport en hiver. Mmh. Le mot numéro un, on en a parlé, c'est la motivation. Donc déjà, mon premier conseil, prenez un sport qui vous plaît. J'ai donné le micro aux enfants. Voici les sports que les enfants détestent le plus.
La gymnastique coordonnée, là où on lance les ballons, les ficelles, tout ça.
Moi, pour moi, c'est la natation synchronisée. Bah, en fait, t'es avec un partenaire et tu dois faire des mouvements dans l'eau.
Moi, c'est la marche rapide. Je comprends pas. Ils sont là, ils sont au bord de la course comme ça, mais ils peuvent pas courir. Après, ils marchent comme des poulets et tout, mais ils peuvent pas courir.
Moi, c'est le ski de fond. C'est bizarre. Enfin, ils peuvent pas skier. Ils skient en même temps, ils marrent.
La pétanque. C'est un sport qui a été créé en 1400, là. Ça a été créé par Louis XIV, la pétanque.
Donc ça, c'est les sports qu'on déconseille pour les enfants. Rassurez-vous, il y en a qui les apprécient. On va parler évidemment de sport. Il y a donc en sport en hiver, j'en ai parlé, il y a des gens qui sont très très motivés, pour qui c'est un plaisir de le faire en hiver, pour qui il y a encore plus de satisfaction que le reste de l'année. J'en ai trouvé quelques-uns, écoutez.
Personnellement, ce que je préfère en hiver, c'est aller marcher. Même s'il fait froid, humide, les paysages sont tellement magnifiques, on en prend plein les yeux.
Le curling, parce que c'est comme quand je fais le ménage chez moi, mais là c'est du sport.
C'est l'escalade en salle. En plus, t'as toujours un snack ou une buvette dans l'enceinte du complexe pour te réconforter. Franchement, c'est le meilleur sport pour moi.
Mais vous avez trouvé la seule nana qui aime le curling? C'est dingue.
L'hiver, c'est le sport d'hiver. Si on a l'occasion d'avoir une patinoire près de chez soi, ils en font beaucoup plus. Et de plus en plus, c'est vraiment intéressant. Après, j'ai également trouvé d'autres personnes qui sont, un peu comme moi, moins motivées pour faire du sport l'hiver.
Je cherche activement une salle de sport où je peux m'inscrire uniquement un mois. Bon, parce qu'à chaque fois, bah, je m'inscris comme tout le monde hein, en septembre avec une énorme motivation. Mais alors, dès que le mois de novembre pointe le bout de son nez, quand il fait froid, bah, là, j'y vais plus du tout, quoi.
Déjà que j'ai du mal à faire du sport quand il fait chaud, alors quand il fait froid, comptez pas sur moi.
C'est dur de trouver. Là, c'est les marmottes. Bah, on en a. Voilà. Et j'ai trouvé une personne très, très motivée, malheureusement. Je me suis dit, ah, vous allez parfaitement correspondre au thème de l'émission. J'ai trouvé une personne motivée. Mais bon, c'était pas pour le sport.
Ah non, non, moi, je suis pas du tout sport. Hein. Moi, l'hiver, c'est raclette et vin chaud. C'est tout.
Voilà. Ah, mais ça, c'est votre épouse, non
c'est ça. Ça aurait pu. Je l'épouserai la prochaine fois.
C'est ça. Mais c'est vrai que c'est sympa. Mais après une séance de sport, raclette et vin chaud, c'est
ouais.
ça
ouais. Ouais, c'est le problème. Normalement, tu fais raclette, vin chaud et tu dis j'irai courir demain. Et puis le lendemain, tu refais raclette et vin chaud.
C'est ça. C'est l'engrenage infernal. Merci beaucoup, Clément Lanoux, pour cette belle chronique. Vous nous avez bien échauffé déjà sur notre sujet de ce matin. On est prête à se bouger avec notre invité. Bonjour, Anouk Garnier.
Bonjour.
Alors, vous êtes coach sportive, championne de course à obstacles. Alors, déjà, peut-être un mot. De votre discipline, justement, c'est quoi la course à obstacles ?
Alors, si vous voyez un petit peu un parcours du combattant militaire, quoi, mm-hmm, donc ouais. avec des trucs à tirer, il y a des charges aussi à tirer, ramper dans la boue, grimper à des cordes, passer au-dessus des murs,
ce
etc.
Ce qu'on appelle les bootcamps, là,
un petit peu.
C'est entre Ninja Warrior
c'est
et ça.
C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, j'allais d'accord. dire, vous rajoutez une petite touche Ninja Warrior avec des obstacles un peu singes en suspension. Ouais. Et puis, vous
c'est
mélangez
Julia Vignali, ça.
Julia Vignali, il me semble qu'elle a fait ça, non ?
Oui, avec vous, nous, il y a quelques années. Et apparemment, dans vos souvenirs, je gérais, hein, comme on dit.
Ouais, franchement, bien géré, plutôt bien.
Voilà. On a clairement, enfin moi, j'ai pas votre niveau, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, justement, on va s'adresser aux gens comme moi. Et bon, Julia, je pense qu'elle a pas dû faire des merveilles sur ce parcours.
Oh, ça va.
J'ai juste 15 ans de plus, c'est tout.
D'accord.
Bon, en tout cas, on va parler aux gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément des sportifs de haut niveau. On va parler sport en automne-hiver. Est-ce que c'est vrai que l'hiver, on a entendu beaucoup de gens chez Clément Lanoux, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a moins de monde dans les salles de sport ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est un constat que vous faites, vous, les coachs sportifs ?
Mais bien sûr. Ça... Mais bien sûr, les gens, on ne sait pas pourquoi. On est, nous, en train de donner le cours, on se dit, mais il n'y a personne dans la salle ou quoi ? Et juste parce qu'il pleut dehors, bah, y a moins de monde dans le cours, quoi.
Alors qu'il ne pleut pas dans la salle,
ouais.
on est d'accord.
Pas dans la salle, on est d'accord.
Et alors qu'on mange plus en automne et en hiver, donc
bien
c'est
sûr.
Là où on aurait le
bien
plus
sûr.
Besoin
oui.
d'aller.
Exactement.
Mais c'est dû à quoi le fait que ça soit déserté ? C'est la nuit, c'est le froid ? Qu'est-ce qui peut démotiver à ce point-là et créer véritablement la désertion ?
Clément, il a la réponse.
Oh, bah, j'en ai plusieurs.
Dites-nous, Clément.
Mais non, mais c'est vrai, c'est déjà dur de se motiver pour faire du sport. Quand on sort dehors, qu'on se dit, tiens, je vais devoir me couvrir, aller affronter le froid pour me découvrir, pour avoir chaud, pour reprendre une douche, pour rentrer dans le froid, pour me remettre au chaud. Voilà. C'est bon, allez, j'allume la télé.
Clément, arrêtez là parce qu'on doit faire l'émission quand même.
Tout à fait. Donc... Okay. Je résume la situation voilà. de beaucoup de personnes.
Donc, on résume les 42 excuses.
Tout à fait.
C'est celle qu'on vous donne
ouais,
le plus souvent.
Après, ouais, c'est ça, c'est déjà de sortir un peu chez soi. En plus, il y a moins de luminosité, donc on a moins d'énergie, etc. Comme tu l'as dit, bah, il fait pas beau, donc ça donne pas envie de sortir. Et il y a aussi, je pense, ce truc de. On n'est pas forcément en maillot de bain l'hiver. Mmh. Donc si on n'a pas, pas à se montrer, on n'a pas à montrer notre corps, donc je pense que les gens se disent, bon, si je prends un peu de poids, c'est pas très grave.
Ça se verra
quoi.
Pas.
Voilà,
tout devient feignasse, en fait.
C'est
le cerveau aussi, hein, il aime bien rester dans coucouné, sous le bonnet et tout ça, en fait.
Exactement.
Il y a un effet presque cérébral, en fait.
Ouais,
hein.
Il y a un effet feignasse, ouais, c'est un bon mot.
Mais
c'est
vraiment, le cerveau, il...
Ah, ça, je sais pas, je suis pas neurologue, mais
non, vous pensez que le cerveau, il se met au diapason
non,
l'hiver ?
Non, en fait, il y a un vrai effet sur le cerveau. Le cerveau, il est fait pour nous garder dans notre zone de confort, en fait. Alors, je ne suis pas non plus expert en neurosciences, mais le but, c'est de nous garder dans notre zone de confort. Par exemple, quand vous êtes au bord d'une falaise, il est censé vous dire « danger, danger ».
Recule.
Pour reculer. Donc ça, c'est une bonne chose. Sauf que quand vous ressentez quelque chose d'inconfortable, la respiration qui va plus vite, les muscles qui brûlent, il le voit aussi comme un danger. Donc en fait, il va vous donner plein de signaux pour
n'ayez
revenir
pas peur,
dans cette
Clément,
zone de confort.
Clément, n'ayez pas peur.
Bah non, non,
donc
mais
quand
j'ai,
vous voyez
j'ai...
la pluie, vous dites « ah, je vais être mouillée !»
Anouk, s'entraîner dans le froid en extérieur, c'est bon pour le corps ou pas ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Il y a des avantages d'ailleurs, physiologiques peut-être ?
Alors, il y a des avantages physiologiques. Le fait que déjà, il fait froid, le corps va brûler plus de calories pour... J'étais sûre que vous alliez dire ça. Ah, les calories. Plus de calories pour nous maintenir un petit peu plus au chaud, quoi, pour que la température soit un peu plus haute.
Mais ça, c'est bien, ça.
Mais ça ne va pas être énorme, en fait.
Ah.
Je vous le dis.
Si c'est pour maigrir, ce n'est pas
voilà,
la bonne idée.
Exactement.
Quoi.
C'est pas pour ça que vous allez maigrir. Mais après, il n'y a pas forcément de contre-indication ou autre, en fait. Du moment où vous faites du sport, déjà, c'est bien. Du moment où vous faites une activité, c'est bien. Après, le seul risque, entre guillemets, c'est que on transpire mm-hmm. un petit peu dehors, on fait de la course
on
à pied.
On peut choper froid.
Exactement.
Bah, oui.
L'idée, c'est de se mettre au sec tout de suite, en fait. Si vous faites les petits étirements et tout ça en fin de séance, mieux vaut les faire au chaud. Ou alors prévoir une tenue sèche.
Voilà, tout
pour simplement. Se changer. Ouais. Ok, Anouk, vous restez avec nous. On va continuer de voir ensemble comment se motiver pour rester actif, à faire toujours autant de sport en hiver. Notre coach sportive et championne de course à obstacles nous a préparé ses meilleurs conseils pour arriver à se fixer des objectifs qui soient tenables. Et vous l'entendrez en hiver, l'envie de bouger, ça se travaille à plusieurs. C'est encore plus efficace. On va tout vous expliquer ce matin sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Et là, on a la motivation, elle est là, hein, Julia. On est à fond. C'est Gym Tonic, évidemment, de retour dans Bienfait pour vous. Votre magazine dédié au bien-être, au mieux vivre. C'est tous les jours de 11h à 12h30. Alors, nous sommes toujours en train de répondre à cette question. Est-ce compliqué de faire du sport en hiver? Alors, compliqué, pas sûr, mais encore faut-il trouver l'envie qui est souvent en berne à cette période de l'année. Alors, pour nous botter un peu les fesses, hein, mais surtout pour nous motiver, elle est toujours avec nous en studio. C'est Anouk Garnier. Vous êtes coach sportive, championne de course à obstacles. On va voir comment la garder, cette motivation. Et la première chose, vous dites, c'est de se fixer des objectifs. Sans ça, il n'y a pas de motivation.
Ben non, en fait, sans ça, il n'y a pas trop de motivation. C'est comme si vous sortez de chez vous, vous ne savez pas où vous allez. Vous allez mettre du temps à faire quelque chose de productif. Donc, ce qui est important, c'est de se poser des objectifs qui soient concrets. Et on donnait un peu l'exemple tout à l'heure, les gens qui reprennent le sport en janvier, là. Vous voyez ou pas, les bonnes résolutions.
Il y a septembre et janvier,
voilà,
quoi, en gros.
Voilà, il y a les deux. Ouais. Ah, c'est ouais. Un peu avril, il y a l'été qui arrive ouais. Et tout. Ça, voilà. Du coup, en janvier, les gens se disent, je vais me remettre au sport. Mais ils ne se donnent pas d'objectifs concrets. Qu'est-ce qui se passe deux mois après? Il n'y a plus personne.
Alors, ça serait quoi un objectif concret, Anouk?
Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est de se dire, bah, tiens, je vais faire un challenge un petit peu sportif. Donc, pourquoi pas se donner une course? Après, si on n'a pas l'habitude de courir
j'avais
ou de faire des choses comme
fois,
ça.
Moi, c'était un 5 km.
Voilà,
mais je l'ai
bah,
fait,
c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et il faut que ça soit adapté à son niveau, bien sûr. Et si, y a,
si c'est
y a
pour
des
une
gens,
bonne cause, ça peut c'est motiver ça, aussi. Plus, moi, je l'avais fait contre le cancer du sein.
Exactement.
Et j'avais été au bout, mais je n'ai plus jamais couru après.
C'est dommage.
J'aurais dû en fixer une deuxième.
C'est ce que j'allais dire. En fait, l'idée, c'est de se fixer un objectif qui soit un petit peu challenging, comme on dit. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à courir 5 minutes, bah déjà de se dire, dans 2 mois, je dois réussir à courir 30 minutes. Mm-hmm. Donc forcément, on a cet objectif en ligne de mire et donc ça nous aide. Et une fois qu'on est arrivé à cet objectif, bah tiens, on va vouloir faire autre chose, etc. Et souvent, il y a des gens qui arrivent à faire des marathons comme ça.
Moi, je pense que c'est jamais. Mélanie, non, marathon, non. C'est... Non, mais j'ai mal au dos en ce moment, donc je peux pas. C'est... Mais peut-être l'année prochaine.
Mais dites-moi, vous êtes une grande sportive, mais je crois que malgré tout, pendant le confinement, vous avez eu, vous aussi, du mal à vous motiver, ce qui est rassurant, puisque vous êtes humaine.
Oui.
Mais comment
oui.
vous faites, alors, justement, pour vous remobiliser quand il n'y a pas le mojo, comme on dit?
Alors, c'était... Ouais, c'est vrai que c'était difficile, parce qu'on ne savait pas quand on est allé avoir une compétition, en fait. Donc, c'était... On s'entraîne, mais on ne sait pas pourquoi. Donc c'est
s'il n'y a pas l'objectif, s'il n'y a pas la compète en vue,
c'est
vous avez
c'est
du
la
mal
carotte
aussi.
Un peu. Ouais. Bah oui, c'est un petit peu gênant. Donc on a réussi à tenir le truc, mais il y a quelque chose qui est très important aussi en dehors de l'objectif, c'est pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux réussir à aller à cet objectif? Et en se raccrochant à des choses comme ça, eh bien en fait, bah, on arrive à avancer.
Mais pourquoi?
On est hyper curieuse, on se dit mais pourquoi? Pourquoi
vous avez envie d'être championne?
Alors moi je veux être championne du monde. Voilà, point.
Ouais, de course à obstacle.
Ouais, de course à obstacle. Après j'ai été vice-championne du monde dans mon groupe d'âge, donc en amateur.
Ouais.
Mais moi je veux être championne du monde pro. Donc voilà.
Et aux Jeux Olympiques, il faut que ça arrive aux Jeux Olympiques, je crois.
Exactement. Ouais. Je rêve que mon sport soit aux Jeux Olympiques et de pouvoir y participer, bien sûr.
Ah, ça c'est une belle motivation,
voilà,
Mélanie.
Et gagner une médaille, j'imagine, parce
bien
que vous
n'y
allez pas pour faire la touriste. Hein.
Ben non, j'y peux pour cueillir des pâquerettes, hein, quand même, hein, les filles, ça va. Hein.
Et dites-moi, vous dites aussi que pour se motiver, il faut en parler à ses proches, qu'on fait du sport. Pourquoi?
Ouais. Ben parce que déjà, ça nous donne une pression. C'est-à-dire que au moins, on se dit, ah ouais, mais je l'ai dit, donc il faut que je le fasse. C'est un peu une fierté.
C'est vrai.
Ça touche l'ego.
J'ai fait ça quand j'ai arrêté de fumer. Je l'ai dit à tout le monde,
voilà.
Y compris sur les réseaux sociaux. Et après, on est un peu tenu de
c'est
satisfaire.
Ça. Du coup, on se sent plus engagé dans l'objectif, on se sent plus obligé. Et il y a une autre chose, c'est qu'ils peuvent vous motiver aussi. C'est-à-dire que le jour où vous êtes fatigué,
allez, vas-y.
Là, j'ai pas envie. Hey, tu veux être championne du monde ou pas? Allez, bouge-toi. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Ouais. Donc, ils peuvent vous aider à vous rappeler.
Est-ce que le corps, il a besoin de, je sais pas, certaines adaptations? Admettons, je fais du sport à l'extérieur, du jogging. Il y a beaucoup de gens qui courent, hein, depuis le confinement, notamment, depuis les confinements. Est-ce que quand on s'entraîne à l'extérieur et qu'il fait très froid, il faut plus s'entraîner, chauffer davantage les muscles? Est-ce que, par exemple, il y a des choses concrètes comme ça qui...
Alors après, pas forcément. C'est vrai qu'en hiver, on a l'impression qu'on doit s'échauffer plus longtemps parce qu'il fait froid, etc. Après, l'échauffement, faut le faire aussi aussi en été. Parce que souvent, les gens oublient aussi ça. Il faut s'échauffer bien au niveau articulaire. Parce que
ça veut dire faire quoi, par exemple?
Ça veut dire faire un petit peu... Alors moi, je fais des exercices qui ressemblent à du yoga en échauffement. Donc, pour préparer le corps à bouger dans des amplitudes qui sont complètes.
Mais après, c'est doux en même temps.
Voilà, c'est très doux, c'est très doux. C'est des grandes amplitudes. On prend le temps de le faire, etc. Et puis après, on a un petit peu d'activation physique. On active les muscles qui vont nous tenir un peu forts pendant l'exercice. Et à la fin, bien sûr, on augmente le cardio petit à petit. Et souvent, c'est vrai que l'hiver, on va le faire peut-être un peu plus longtemps parce que la température de base, elle est un peu plus fraîche. Donc, on a besoin d'un peu plus de temps pour chauffer les muscles, etc., etc.
Anouk, j'ai l'impression que vous croyez à l'esprit de groupe. Vous conseillez de faire du sport en groupe, c'est ça?
Ouais, je trouve que c'est hyper motivant en groupe. Moi, je fais faire des team building aux entreprises pour la cohésion d'équipe. Je les emmène sur des obstacles, je les emmène en extérieur. Et il y a des gens... tout seul, il franchirait pas un seul obstacle. Mais
genre les hommes et les dames en cravate et, et en tailleur, vous les mettez en basket et vous les amenez tous ensemble.
Je les mets dans l'eau, je les mets dans la boue, j'adore ça. Ça me fait trop rire. Et je leur demande de passer des murs ensemble et tout. Et en fait, il y en a qui sont pas du tout sportifs, qui n'auraient jamais pu faire ça.
Et qui se dépassent.
Avec la force du groupe, qui se dépassent. Et c'est hallucinant.
Une chose importante, vous dites, malgré tout, c'est la discipline. Malgré le froid, la nuit, en effrayant ce matin sur Europe 1, mais il faut se forcer, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose qui est difficile à avoir, c'est une autodiscipline en fait. Mmh. C'est-à-dire se discipliner soi-même à faire ce qui est prévu pour avancer justement, encore une fois, vers cet objectif. C'est-à-dire que moi, je veux être championne du monde. Si tous les jours, je me dis « mais non, j'ai froid, j'ai pas envie de sortir, d'aller faire mon entraînement. »
Vous avez un mental d'acier, ça paraît évident.
Ouais, mais ça se travaille.
Il y a des jours où il est pas là.
C'est ça, ça se travaille, bien sûr.
Et alors, comment vous faites pour le travailler, pour vous obliger à avoir la motivation?
Alors, déjà, je me laisse pas le choix, en fait. Il y a un moment où il faut pas se laisser le choix. Si on se laisse le choix, forcément, on va choisir quelque chose qui est plus confort, qui nous plaît plus. On va choisir d'aller boire l'apéro plutôt qu'aller courir dehors sous la pluie, par exemple.
Sauf que les deux sont pas incompatibles, en fait.
Non, on peut faire la pluie et après l'apéro, ça passe. Et justement, l'apéro est encore meilleur après,
c'est ça.
Mais est-ce que, par exemple, se fixer un horaire qu'on ne peut pas reporter d'une semaine sur l'autre, c'est une bonne idée, ça.
Il faut mettre dans son planning, en fait, les choses.
J'adore les plannings.
Ah ouais, voilà, c'est ça. Il faut absolument avoir des habitudes, il faut ancrer des habitudes, on l'a dit tout à l'heure. 60 jours, l'idéal, pour ancrer des habitudes. Quand on ancre des habitudes, qu'est-ce qui se passe? On n'y réfléchit plus. Donc, on n'y réfléchit plus, on fait le truc, on ne se laisse pas le temps de réfléchir, on passe à l'action. Quoi.
Le lundi 18h, on a sport, point barre.
Point barre, c'est ça. Ouais. J'ai pas d'excuses.
Moi, c'est le mardi soir, mais
mardi soir, ça marche.
Parfois, j'ai piscine. Enfin, non, je dis non, je peux pas aujourd'hui, je peux pas, c'est pas possible.
Voilà.
Bon, si on a passé vraiment, admettons, une journée très stressante et qu'on est très fatigué, ça peut arriver aussi d'avoir des journées au boulot qui sont compliquées. Là, le lundi soir, 18h de Julia, parfois, on va avoir envie de le mettre de côté et puis dire on verra lundi prochain. C'est quoi votre conseil quand on a sport, mais qu'on est au bout de sa vie pour y aller vraiment?
Mais vraiment au bout de sa vie.
Il faut y aller.
Ouais.
Ouais. Et il faut adapter la séance, en fait.
Faire une mini-séance ce jour-là, éventuellement.
Faire une séance, adapter l'intensité, moins d'intensité que prévu, moins longtemps peut-être, mais se bouger rien que 15 minutes. C'est rien, 15 minutes.
Non, c'est vrai.
Voilà, ça passe. 15 minutes, franchement, mais on se sent mieux après. Justement, et je trouve que c'est encore meilleur, les séances où on y va un peu à reculons, on n'a pas envie, on a une journée pourrie et tout.
Ben c'est
on
justement là qu'il faut y aller.
Exactement. Et on ressort, en fait, on se dit « Ah, c'était génial, je suis trop content d'avoir fait. »
Vrai.
On regrette jamais, finalement, d'avoir fait du sport.
Non, c'est très rare. Par contre, on peut regretter de ne pas y être allé et s'en vouloir et la culpabilité et tout. Mais alors, vous avez une autre astuce, c'est rentrer à pied du travail. Pourquoi? Parce que vous dites que ça agit sur notre motivation d'aller à la salle?
Alors, en fait... Pour moi, il faut pas attendre d'avoir de l'énergie, il faut la créer. Donc si on est assis toute la journée au bureau, on est dans un mood un peu mou.
Ah oui, c'est clair.
Un peu mou, clairement. Du coup, on n'a pas du tout envie d'aller faire du sport quand on est dans cette énergie. On n'est pas dans une bonne énergie pour faire du sport. Du coup, du moment où on va se mettre à bouger, on va se mettre en mouvement. Moi, des fois, je me lève comme ça, je fais des squats, par exemple.
Oui, ça nous arrivera jamais.
Ça recrée l'énergie, ça recrée l'énergie et ça vous donne envie de bouger, en fait, finalement. Donc, du coup, le fait de se lever, d'aller marcher 5 minutes, même au milieu de la journée.
Avec la bonne playlist dans les oreilles
pourquoi
aussi. Je crois que vous utilisez la musique pour motiver.
En fait, c'est ça. Et c'est de créer des automatismes qui nous permettent de bouger, de se mettre en mouvement. Moi, j'ai des playlists de motivation, j'ai des vidéos de motivation.
Et le HIIT, c'est quoi? Parce que je vois ça partout, c'est très tendance en ce moment.
HIIT, ça s'appelle.
HIIT,
c'est High Intensity Interval Training. Vous avez vu mon petit accent?
Wow. Génial. La
BIM. BIM.
C'est-à-dire quoi?
En fait, c'est des intervalles très courts, donc jusqu'à 45 secondes maxi, à très haute intensité, avec intercalé avec des moments de récupération. Et l'idée, en fait, c'est que comme vous passez beaucoup de temps en très haute intensité, vous créez un peu une espèce de dette d'oxygène. Alors ça va très loin. Et vous brûlez beaucoup plus de calories après l'entraînement.
Ah, ça, en hiver, c'est pas
ça
mal.
Qui est intéressant.
C'est un peu du fractionné ?
Ouais, c'est comme du fractionné, c'est un peu ça.
Ah,
après, il faut que ça soit bien dosé, bien fait et que ça soit à la bonne intensité pour que ça fonctionne. Mais il y a vraiment de gros bienfaits.
On fait des petites séances même éventuellement de ça, ouais, là, de HIIT. Ouais. Et c'est en hiver, si on n'a pas trop le temps ni l'envie, ça peut être efficace.
Ça peut être très efficace. Ouais.
Génial, Anouk Garnier. J'ai vous demandé quelque chose que vous ne savez pas faire. Ne bougez pas. On a encore besoin de quelques conseils pour peaufiner notre motivation à faire du sport. On a déjà pas mal d'astuces et des questions très pratiques reçues de la part de nos auditeurs pour vous. Je le rappelle d'ailleurs au passage, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram de l'émission ou encore au 3921, notre répondeur.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin dans notre émission. Nous sommes d'humeur sportive avec Mélanie Gomez. Pour nous, c'est bon, cette fois c'est décidé, on va se bouger. Non, franchement, qu'il gèle, qu'il pleuve, qu'il vente, on chaussera les baskets chouettes, tu verras. Et celle qui nous a convaincus, c'est Anouk Garnier. Je rappelle que vous êtes coach sportive, championne de course à obstacles. Et Anouk, alors l'hiver, pas besoin forcément de s'inscrire dans une salle d'ailleurs ou d'aller courir à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire chez soi comme exercice, par exemple?
Eh bien, on en a parlé de HIIT tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est très intéressant.
Il y a plein de séances en ligne, en plus.
Plein de séances en ligne. On peut le faire à poids de corps. On
ça peut l'adapter. Ça veut dire quoi, ça, à poids de corps?
C'est sans avec, machine.
Non, même, juste avec votre
juste
poids.
Juste avec ton corps.
C'est déjà bien suffisant.
C'est bien. Okay. Voilà. Et après, on peut faire aussi des exercices comme du yoga. Le yoga, c'est très intéressant parce que ça travaille toute la mobilité du corps.
Mais donc ça muscle c'est... vraiment le yoga?
Oh oui.
C'est parce que j'en ai jamais fait que je dois dire ça.
Ça crée des muscles en profondeur qui permettent en fait d'avoir une meilleure posture, de mieux maintenir les articulations.
Vous qui avez l'air super speed, vous faites du yoga?
Et oui, madame.
Du yoga et de la course à obstacles, des trucs de militaires là, fou dans la boue, et en même temps du yoga.
Ouais, et ça apporte d'énormes bénéfices aussi sur les douleurs articulaires. Pour les gens qui ont des douleurs articulaires, souvent c'est qu'ils sont un peu restreints dans leurs amplitudes de mouvement, ils peuvent pas se redresser complètement, ils peuvent pas aller se gratter derrière, je fais des mouvements comme ça. Et en fait, le fait de travailler cette mobilité articulaire va permettre de se sentir mieux dans son corps, de se sentir moins restreint et d'avoir des articulations, on va dire, en meilleure santé. Et pour le sportif de haut niveau, c'est important aussi pour la longévité. Enfin, pour le sportif tout court, même le sportif du dimanche. Pour la longévité, pouvoir durer dans le sport et dans l'activité physique, c'est important de travailler cette mobilité articulaire.
Très bien. Alors, on a Martin de Béziers sur la page Facebook de l'émission qui nous demande « Est-ce qu'il faut boire autant qu'en été quand on fait du sport ?» Donc, en hiver, je suppose. C'est quoi le risque si je ne m'hydrate pas suffisamment concrètement ?
Alors, l'hydratation de base, c'est hyper important, que ça soit en été ou en hiver. En été, effectivement, on transpire un peu plus. Souvent,
Julia boit,
elle
fait pas de sport, mais elle boit.
C'est bien, Julia. Bravo, Julia.
C'est déjà bien.
C'est bien. Et c'est important de s'hydrater en hiver aussi, en fait. Parce que dans tous les cas, votre corps, il est composé 70% d'eau quasiment. Donc, si on veut que le corps fonctionne correctement, les cellules fonctionnent correctement, il faut boire.
Ça sera fait. Myriam sur Instagram qui nous pose la question suivante, enfin qui vous pose la question suivante. Je fais du sport régulièrement, 3 fois par semaine, mais l'hiver j'ai l'impression que je grossis. Est-ce que je dois faire plus de séances en hiver? Est-ce que c'est normal d'être plus lourd en hiver?
Oui, je crois que oui.
Vous aussi, vous grossissez en hiver?
Je pense qu'en fait déjà, je crois que c'est un réflexe un petit peu du corps, c'est-à-dire de stocker un petit peu plus l'hiver parce qu'il fait froid. Je crois que c'est un espèce de réflexe. Alors, je suis pas spécialiste là-dessus.
Vous augmentez vous le nombre de séances que vous faites
non,
en hiver?
Non, je n'augmente pas. Non, il faut rester sur son voilà.
C'est juste pour avoir une idée pour nous. Je pense que culpabiliser voilà. Définitivement. Vous vous entraînez tous les combien? Tous les jours?
Je m'entraîne. Non, pas tous les jours. Je me garde 2 jours off dans la semaine, mais souvent je fais 2 sessions par jour en fait. Voilà.
Ah oui.
Voilà.
D'accord.
C'est ça.
Oui, mais elle veut être championne du monde.
Oui, c'est pas pareil.
C'est pas notre objectif.
C'est vrai. Pas le même objectif quand même.
Est-ce qu'on pourrait conseiller justement à quelqu'un de bien motivé en hiver de faire plus de cardio? Est-ce que pour quelqu'un qui voudrait maigrir par exemple, est-ce que le cardio vraiment ça fait forcément davantage maigrir?
Ouais, alors oui, c'est bien de faire des efforts cardiovasculaires. Après, il faut que ça soit avec les bonnes méthodes. Donc le HIIT, on a parlé, c'est très intéressant, mais faire que ça, c'est pas forcément la solution non plus. Et puis parfois, c'est pas adapté à tout le monde. C'est-à-dire
qu'il
manquera fractionné.
Si je fais que du HIIT, il va me manquer
il
quoi?
Il va peut-être manquer un peu d'endurance de fond, etc. Et en fait, faire que du HIIT, au bout d'un moment, le corps, il est trop en acidité. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Ça fait beaucoup d'impact, etc. Donc, 2-3 séances de HIIT, si on est très entraîné, ça suffit.
Je rappelle, le HIIT, ça s'écrit H-I-T, ouais. Et on dit en anglais...
High intensity interval training.
Voilà, c'est ça. Si vous avez pas écouté le début de l'émission, c'est jamais.
Intervalle training de haute intensité, quoi.
Très bien, parfait. Il y a Cindy également qui est près de Limoges et qui nous dit au 3921, notre répondeur, je fais du sport, mais je mange assez mal. Quels sont vos conseils en termes d'alimentation? Vous mangez quoi, vous, par exemple, au quotidien? Jamais un McDo ou une pizza, j'imagine.
Si,
même une future championne du monde oui, mange de la junk food, parfois.
On se fait des écarts, quand même, parce qu'à un moment, on est humain, on a envie. Alors après.
À quelle fréquence? Moi, c'est tous les dimanches.
Si j'ai une compétition qui arrive, je vais pas en faire. Ouais. Par contre, si voilà, l'hiver ou quoi, je vais être un petit peu plus relax une fois que la saison de compétition est terminée, une fois dans la semaine. Quoi.
Oh, c'est pas mal. C'est un petit lâcher prise sympathique.
Ouais, voilà. Après, effectivement, l'alimentation, c'est crucial, très important. En fait, les deux, sport et alimentation. Si on ne mixe pas les deux, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque, en fait.
Ouais. Vous nous avez motivés. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et à celles de nos auditeurs. Je crois que vous avez rallumé la flamme, en moi en tout cas. Je suis plus motivée que jamais. Et si j'oublie, eh bien, je me conseille et vous conseille à tous de réécouter cette émission qui sera disponible en podcast, bien sûr, dans la journée. Merci à vous, Anouk.
Merci, Anouk. À présent, Julien, on va passer à toute autre chose. Enfin, quoique, on va s'occuper de nos fesses, les prendre en main. Enfin, pour ceux et celles qui le souhaitent, hein, si vous les trouvez trop grosses, au contraire, que vous aimeriez les avoir plus volumineuses. C'est à la mode en ce moment. Il y a le sport pour ça, mais il y a aussi ce dont on va vous parler dans notre dossier santé du jour.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Tout de suite, nous accueillons donc notre invité pour ce dossier santé du jour. C'est le docteur Gilbert Zakine. Bonjour docteur.
Bonjour Julia, bonjour Mélanie. Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes chirurgien, plasticien, membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Et on va parler de fesses. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est si important pour les gens d'avoir de belles fesses? On a l'impression que c'est quelque chose qui est surtout à la mode au Brésil. Mais en France maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une vraie demande?
Absolument. Alors, cette demande est arrivée progressivement, mais elle est de plus en plus forte.
D'accord. Ça veut dire que même en France, par exemple, c'est devenu un objet de séduction, comme à l'époque on entendait faire beaucoup plus de chirurgie de seins, par exemple. Mais vous avez de plus en plus de demandes pour des fesses?
Absolument, et je crois que ça a toujours été un objet de séduction, hein, Mélanie, depuis l'aube de l'humanité. C'est la bipédie, le fait de se tenir debout et de marcher qui caractérise les premiers hommes, ça libère les mains, mais ça permet de sculpter les fesses. La fesse n'appartient qu'à l'homme, disait Buffon. Et tout le monde connaît la plus ancienne statuette humaine, 23 000 ans, la Vénus Callipyge, cette femme, vous savez, avec ses formes très très généreuses, et on la voit, elle est un symbole de sensualité, de beauté, de fertilité. Ça date pas d'hier.
Voilà. Ça date pas de Kim Kardashian, pour dire.
C'est bien plus ancien. Et je pense que c'est l'offre qui crée la demande dans ce cas-là, et pas l'inverse.
L'offre,
c'est-à-dire que c'est grâce au progrès de la chirurgie, qui sont relativement récents, qu'on a aujourd'hui des demandes. D'accord. Sinon, on les aurait peut-être eues bien avant.
D'accord. Et on fait combien d'interventions au niveau des fesses en France chaque année? Est-ce qu'on a une idée?
Oui, tout à fait. Alors, il y a ici les chiffres de l'ISAPS, c'est la Société internationale de chirurgie plastique. En tout cas, dans le monde, actuellement, on est à peu près un demi-million d'interventions de fesses, qui est absolument énorme. C'est 4% des interventions de chirurgie plastique.
4%, d'accord.
4%, donc c'est devenu pas mal. En France, on avait en 2016 à peu près 4000, on va dire, grosso modo 4000 interventions d'augmentation des fesses. Et en 2019, ça s'est multiplié par deux. On est à peu près à 8000, donc une augmentation de 50%.
Et là, vous parlez d'augmentation des fesses.
Alors, augmentation des fesses, et je parle à la fois de l'hypofilling, c'est-à-dire, vous le verrez,
on va détailler ça.
On aura le temps de le détailler, c'est-à-dire la réinjection de sa propre graisse, et d'augmentation des fesses par implant. En sachant qu'on a à peu près une dizaine de lipofillings de fesses pour un implant.
D'accord. Quel est le profil des femmes qui demandent ce type d'intervention? D'ailleurs, je dis femmes, mais peut-être qu'il y a des hommes aussi, je ne sais pas.
Alors, il y a beaucoup moins d'hommes. Ça, on en parlera. Mais
elles ont quel âge à peu près?
Alors, elles sont plutôt jeunes, je dirais entre 20 et 50 ans. Mm-hmm. Donc, c'est quand même très large. Hein. Donc, c'est plus des jeunes parce que la mode les touche peut-être un petit peu plus. Mais ça peut être aussi des patientes de certain âge qui ont perdu du poids, dont les fesses... s'affaisse, parce qu'elle s'affaisse avec le temps, elle se creuse, donc ça peut être de très bonnes indications, en particulier pour un lipofilling.
Dites-moi, il y a forcément une période de l'année qui est plus propice à se faire opérer des fesses.
Moi, je dirais maintenant. Hein, oui. Là, il n'y a pas de maillot de bain en ce moment.
On a le temps de récupérer pour montrer ses fesses cet été. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de moment en particulier.
D'accord.
Et on peut le faire absolument toute l'année. Simplement, il faut prévoir au moins un mois et demi après une mise en place d'un plan et au moins un mois avant de partir en vacances et s'exposer sur la plage.
Avant, on ne peut pas montrer ses fesses. Hein.
On peut les montrer, mais dans l'intimité, je dirais. Oui.
Ça vous arrive de... Vous dites donc que c'est quand même en pleine augmentation, ce type d'intervention. En tout cas, la demande. On se doute, elle a cité tout à l'heure Julia Kim Kardashian, effectivement. Et il y a d'autres influenceuses, aujourd'hui, des jeunes qu'on voit comme ça sur les réseaux sociaux avec des popotins énormes. Et donc, il y a une mode. Est-ce qu'il y a de très jeunes filles qui viennent vous demander ce type d'intervention et que vous devez peut-être refuser? Parce que j'imagine que vous n'intervenez pas à 15 ou 16 ans.
Alors, il y a des très jeunes filles, évidemment, et il faut les recadrer, parce que notre rôle est d'opérer, bien entendu, de répondre à la demande, mais aussi de les recadrer, de parfois refuser. Alors, des mineurs, tout de suite, bon, moi philosophiquement, je les refuse, surtout pour les interventions de chirurgie esthétique, pas en chirurgie réparatrice, bien sûr, ou constructrice, mais esthétique, certainement. Aussi parce que les jeunes, souvent, ont un trouble de l'image corporelle, ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Elles pensent être laides, alors qu'elles peuvent être très jolies. Elles pensent avoir un défaut, alors qu'elles n'en ont pas vraiment. Donc, il faut savoir attendre et puis bien cadrer la demande. Et concernant Kim Kardashian, il faut expliquer aussi aux patientes qu'un certain nombre de photos de mode sont retouchées.
Oui, ce n'est pas forcément des fesses suite à une intervention.
Exactement, ça peut être, c'est des fesses après Photoshop. Oui. Ça, il faut leur expliquer parce qu'on voit des fois dans les magazines des choses qui paraissent totalement impossibles. Mmh. Des tailles extrêmement fines avec des fessiers absolument énormes.
On dirait que ça va se casser. On dirait que ça, moi, ça fait peur.
Non, mais c'est simplement impossible. Donc, c'est des photos aussi retouchées. Donc, tout n'est pas possible. Et ça, c'est à nous à l'expliquer. Et puis, c'est patiente par patiente, bien sûr.
D'ailleurs, est-ce qu'on... Parce qu'il y a des seins qui sont en forme de poire, de pomme. Pour les fesses, il y a différentes formes de fesses.
Oui, alors on va dire classiquement, on distingue la forme en A, en O, en H et en V.
Alors, il faut nous expliquer.
Alors, je vous explique. En O, c'est joli, c'est des petites formes rondes. En H, c'est des formes un petit peu carrées, un peu comme des fesses d'hommes. Vous évoquez les hommes, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de demandes, parce que bon, l'homme fait peut-être un peu moins attention à ses fesses, ou la femme est peut-être plus tolérante pour le vieillissement de l'homme, ça c'est vrai aussi. Mais aussi, surtout, parce que la fesse de l'homme est sculptée par ses muscles. Donc, on ne va pas réinjecter de la graisse. Et si on le fait, il faut être extrêmement prudent parce qu'on risque de féminiser la fesse.
Ah oui, nous, on a moins de muscles que les hommes dans les fesses. Alors, on a plus de graisse.
Parce
plutôt.
Que j'ai dit, il y a un peu moins de muscles, oui, bien sûr. Mais il y a plus de graisse et des formes différentes. Les hanches sont plus larges. Et une forme idéale, c'est la forme, alors je dis en forme de A, mais
c'est quoi,
en forme de cœur inversé. C'est piriforme. Piriforme, ça veut dire en forme de poire. Et vous voyez tout à fait la forme de cœur inversé.
Ah oui, c'est beau.
Ça doit être beau. Enfin, en tout cas, on se fixe ça comme objectif en fin d'intervention. Et je vous l'expliquerai, mais qu'on place des implants ou qu'on réinjecte de la graisse ou qu'on fasse les deux, parce qu'on peut faire aussi ces deux interventions combinées. On va rechercher à avoir une courbe juvénile attractive et belle. Voilà.
Ah oui. Alors, docteur Zakine, on va continuer cet entretien dans quelques minutes et on va rentrer un peu plus dans le détail, justement. Que peut-on réellement proposer aujourd'hui pour avoir des fesses plus rebondies, plus lisses même, peut-être? Qui sait, faut-il systématiquement passer au bloc pour des implants ou y a-t-il d'autres méthodes moins lourdes? On va vous détailler tout cela sur Europe 1.
Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé et surtout de votre bien-être ce matin. Si vous êtes complexé par vos fesses, leur forme, leur épaisseur, vous êtes au bon endroit. Et puis si elles vous conviennent très bien, vous êtes aussi au bon endroit parce qu'après tout, on apprend beaucoup de choses ce matin avec le docteur Gilbert Zakine, chirurgien plasticien, membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Alors docteur, passons au vif du sujet, à l'aspect technique je dirais. Qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention pour augmenter le volume des fesses, puisque c'est la principale demande, j'ai bien compris. Je crois qu'il y a déjà donc des injections de graisse, ce que vous appelez le lipofilling, c'est bien ça ?
Exactement, lipofilling, alors ce qui est appelé aussi le BBL, le Brazilian Butt Lift.
Le BBL.
Qui est une mauvaise appellation, mais enfin bon, ça. L'intervention va consister à prélever de la graisse là où il y en a trop et la réinjecter là où elle est manquante, c'est-à-dire dans la fesse, pour augmenter le volume de la fesse et le remodeler. Donc ça va non seulement augmenter le volume, mais ça va améliorer la forme et la silhouette.
Mais ça veut dire qu'on peut se faire une liposuccion de quelque part.
Faut faire une liposuccion. On ne peut pas réinjecter. C'est forcément votre propre graisse.
Ah, c'est la graisse celle de Mélanie.
Oui, parce qu'elle sait que j'en ai un bon stock, alors elle pensait récupérer la mienne.
Si on s'amuse à faire ça, ça finirait très mal. C'est impossible parce que la graisse serait évidemment rejetée. Ah. Hein, c'est des cellules, c'est pas vos propres
c'est
cellules.
Autologue,
donc c'est forcément autologue. Les cellules, il faut le faire tout de suite. Alors il y a des études qui ont montré qu'on peut la garder, la congeler, mais ce serait pas efficace. En tout cas, c'est pas autorisé aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Donc on va réinjecter durant la même intervention la graisse. On va la travailler.
Durant la même intervention.
Oui.
Donc, vous pouvez me prendre dans la même intervention la graisse de mon ventre,
vous la mettez dans mes fesses.
Non seulement le ventre, alors c'est en fonction de la patiente, on leur demande qu'est-ce qu'elles aimeraient enlever. Alors le plus souvent ça va être le ventre, les cuisses, les flancs, les hanches, le dos, le sacrum, qui est très important de sculpter, de recréer cette cambrure qui est très jolie et sexy au-dessus des fesses. Et cette graisse qu'on va purifier par trois lavages, par une décantation, par une émulsification,
Oui, elle est travaillée, cette
graisse. Obtient un volume qui est deux fois inférieur au volume prélevé. Il faut en prélever suffisamment. Ah. Et deuxième élément, il faut surcorriger. Quand on a l'habitude de le faire, on sait qu'il faut surcorriger parce qu'il y a une petite perte qui est à peu près d'un quart ou d'un cinquième de la graisse réinjectée, qui peut être plus importante. Si vous la réinjectez comme ça, sans la travailler, c'est une perte de plus de la moitié. La semaine dernière, j'ai dépensé 7 litres sur une patiente, et je lui ai réinjecté à la fois les fesses et les seins.
Ça l'a fait rêver, Julien, 7 litres.
Là, il n'y a pas de 7 litres enlevés chez vous, de toute façon.
Non, mais même 2 litres, c'est génial. On peut s'en mettre dans les seins, on peut s'en mettre un peu
partout. Mais alors, c'est limité. Je vous l'expliquerai après, mais c'est limité au niveau des volumes. On peut pas dépasser un certain volume, et de toute façon, après, il y a un moment donné.
7 litres, c'est un peu le max quand même, non?
7 litres, c'est, attention, le max, en gros, de ce qu'on peut retirer, mais ça ne va pas être ce qu'on va réinjecter. Mmh. Le maximum de ce qu'on peut réinjecter, ça va être à peu près 1 litre par fesse. Alors, certains font plus, ça dépend de la demande de la patiente et du résultat qu'on veut obtenir.
Et on peut le faire que si la patiente a de la graisse, parce qu'il y a des femmes très fines.
Une femme très
fine
qui n'a pas de graisse, c'est pas la peine d'essayer de lui proposer un lipofilling, ça ne marchera pas.
Alors qu'est-ce que vous faites?
C'est des implants. Alors là, c'est des implants. On va lui proposer des implants mammaires, des implants fessiers. Ça peut être les deux, mais enfin, il faut éviter de faire les deux en même temps, c'est trop lourd. Donc, des implants fessiers, et on peut même combiner, et ça, c'est assez récent, ça donne de très beaux résultats naturels, l'implant fessier et l'injection de graisse. Parce que l'implant fessier va augmenter le volume dans la partie centrale et haute de la fesse, et l'injection de graisse va combler le défect, le petit creux latéral, et ça donnera un résultat magnifique, très naturel.
Alors vous avez dit que vous mettez donc des implants fessiers, pas des implants mammaires, mais c'est le même type de produit, sont faits en quoi ces implants? Ils n'ont pas la même taille,
alors,
j'imagine?
Alors pas tout à fait, c'est du silicone, mais c'est des gels beaucoup plus cohésifs, c'est-à-dire beaucoup plus fermes, parce que dans les fesses...
Plus solide, parce qu'on s'assied sur les fesses.
On s'assied dessus, il y a plus de choc, ça doit être plus solide. Les implants sont plus durables aussi, la durée de vie moyenne d'un implant mammaire, c'est 10 ans, c'est un peu plus que 10 ans. Hein,
les laboratoires nous conseillent de les changer.
Oh, les fesses, on est sur du 20 ans, 25 ans en règle générale. Donc quand on les met, souvent, on va les retirer s'il y a un problème, si la patiente n'en veut plus au bout de 20 ans.
Sinon,
on les garde. Voilà, on va les garder.
Alors pour celles qui veulent au contraire réduire la taille de leurs fesses, qu'est-ce que vous faites là? C'est une hypo? Il n'y a que ça à faire?
Alors là, il n'y a pas vraiment de réduction de la taille des fesses. En fait, ce que vous appelez la taille des fesses, c'est la graisse qui est autour.
C'est la culotte de cheval.
Voilà, exactement. C'est-à-dire, c'est les hanches, c'est les flancs. Et c'est important de le faire, surtout quand on augmente le volume. On va augmenter le volume des fesses et on va retirer la graisse qui est au-dessus et parfois sur les côtés de la culotte de cheval. Alors, pas trop. Hein. Aujourd'hui, la culotte de cheval est un petit peu à la mode, surtout si on fait des grosses augmentations fessières. Donc, des fois, même on réinjecte de la graisse dans ce qu'on appelle la culotte de cheval pour avoir cette forme justement de cœur inversé. Mais on ne va pas lipoaspirer elle-même la fesse, sinon elle va se creuser sa fessée, vieillir.
Ah bon?
La fesse, on n'y touche pas. C'est sacré, on ne touche pas la fesse. On n'enlève pas la graisse de la fesse.
Alors je reviens sur les implants, parce que moi j'aime bien la technique et j'aime bien le bloc. Au bloc opératoire, ça se passe comment? Vous les rentrez par où les implants?
Alors les implants,
sont les cicatrices?
Alors on fait une petite incision. Évidemment, la cicatrice doit être masquée, donc on la met dans le pli interfessier.
Il y a
différentes techniques. Soit on fait une seule incision, soit on en fait deux un petit peu décalées. En tout cas, c'est toujours dans le pli fessier.
Et on ne la verra pas, a priori.
Non, on le voit pas. On ne verra pas cette incision. Et on va placer les implants. Alors il y a différentes techniques. Je ne vais pas refaire l'historique. Au début, c'était sous la peau, c'est catastrophique, les implants étaient visibles. Puis après, il y a des auteurs au Brésil qui ont mis des implants sous le fascia, entre le muscle et le fascia musculaire. Ce n'est pas bon non plus. D'autres en profondeur, c'est dangereux pour le nerf sciatique. L'idéal, c'est intramusculaire. C'est un petit peu plus difficile que l'implant du sein qu'on place sous le muscle ou sur le muscle, mais pas dans le muscle. Pour l'implant fessier, on le place dans le muscle. On va cliver le muscle, donc ce n'est pas un plan de décollement.
Ça me fait un peu mal aux
anatomie.
Fesses.
Alors ça fait un petit peu mal, c'est pour ça que ça fait un petit peu mal. Mais c'est là qu'il faut le mettre, parce que l'implant n'est pas trop profond, il n'est pas trop superficiel, il est recouvert et protégé par le muscle, donc il n'est ni visible ni palpable.
Mais si on est actif, qu'on travaille, par exemple, quand on fait ce type d'intervention, on est d'accord, on ne peut pas aller travailler pendant quelques temps,
pas
il vaut mieux
suite.
S'arrêter
alors,
un petit peu.
10-12 jours. Alors il faut distinguer, distinguer les implants et l'hypofilling. Alors moi je fais surtout, je fais des implants bien entendu, mais je fais surtout l'hypofilling. J'ai 20 fois plus.
En France,
de
ça se fait plus de lipofilling que
oui,
des
mais
implants.
Même au Brésil. Ouais. Si on regarde, je connais la plupart des injecteurs et puis des poseurs d'implants dans le monde, en Amérique du Sud en particulier, ils ont tous eu cette même courbe de progression. Au début, ils mettaient surtout des implants. Et quand l'hypofilling est apparu, on a commencé à maîtriser ces techniques de purification de graisse et de réinjection.
C'est plus naturel, quoi.
C'est plus naturel, c'est moins risqué. Ça permet en plus de traiter les excès graisseux. Donc ça fait un remodelage complet de la silhouette et c'est absolument extraordinaire.
Quand vous dites c'est moins risqué, pourquoi les implants c'est risqué?
Alors, c'est les suites, les complications. Il n'y a pas de risque vital, mais les complications sont plus fréquentes, en particulier la désunion de la cicatrice.
C'est quoi ça, la désunion de la cicatrice?
C'est l'ouverture de la cicatrice. Ah oui. C'est jusqu'à 10 à 15% des séries publiées, donc c'est pas rien. Donc on n'est pas obligé d'enlever l'implant, ça résiste mieux à l'infection, paradoxalement. Mais il y a un suivi un peu plus compliqué qu'avec un implant.
Et ça n'arrive pas avec le lipofilling, la graisse?
Alors ça n'arrive pas, mais attention, je vais quand même dire une chose. Le lipofilling entre de bonnes mains, d'un chirurgien qui a l'habitude, c'est pratiquement sans risque. Par contre, il y a des risques et il y a même eu des décès après l'hypophilie. Il faut le savoir, c'est même aujourd'hui l'intervention la plus dangereuse.
Ah bon ?
En fait, alors je dis même si elle effraie les patientes, mais c'est la réalité, on a à peu près un décès pour 3000 l'hypophilie, ce qui est énorme.
Bah oui.
Alors que toute opération de chirurgie esthétique confondue, c'est 1 pour 55 000.
Mais alors pourquoi ?
Alors, bah, je vous explique, c'est très simple. Si le chirurgien n'a pas l'habitude de le faire ou est maladroit, s'il injecte dans le muscle, alors qu'il doit injecter la graisse absolument au-dessus du muscle, il risque d'injecter de la graisse de façon malencontreuse dans une veine glutéale, une des veines.
Là, on a très peur. Hein.
Ah non, non, ben oui, mais il faut
alors
quand
comment
même
comment choisit bien son chirurgien,
Bon, il faut, oui, voilà,
le bouche à oreille, il faut savoir
qu'il fait... de la SOFCEP, déjà, c'est bien. L'immense majorité des chirurgiens français sont très bien formés. Et ils ne vont pas faire quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas.
On a le droit de demander à son chirurgien, vous en faites souvent des fesses, vous
bien
c'est
sûr,
ça,
il faut
aussi.
Lui demander. Et puis, bon, ceux qui n'aiment pas ça, ils n'en font pas. Mais c'est, une fois qu'on a compris ça, c'est pas très compliqué.
D'accord.
Simplement, il faut le savoir. Voilà, il faut simplement le savoir. Alors, combien ça coûte ? C'est variable. On va dire, pour un lipophilie complet, on est plutôt dans les 8 000 euros, entre 8 000 et 9 000 euros.
Mais pas parfait, ça.
Non, bien sûr. Bah, alors, non, ce serait pas très élégant de le présenter comme ça.
D'accord.
Non, bien sûr. Et ça inclut.
Alors, je vous fais la droite alors, en premier, non, puis l'année prochaine, quand
ça,
vous aurez le budget, je
donc
vous fais la gauche.
C'est assez coûteux parce que c'est une opération qui est longue et qui inclut en fait la lipoaspiration de toutes les zones et la réinjection de graisse. Donc,
c'est combien de temps on bloque à peu près tout ça ?
Alors, c'est variable, mais ça va être entre 2 et 3 heures si on veut travailler correctement.
Bon, et le résultat final, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a bien récupéré, qu'on peut s'asseoir à nouveau sur ses fesses, on l'a vraiment, parce que je sais qu'en général, il y a de l'œdème au début, donc au bout de combien de temps on peut considérer qu'on a le résultat final ?
Alors, on va le résultat final une fois que l'œdème est parti, et une fois que la graisse qui ne prend pas, c'est-à-dire les 20 ou 25% de graisse qui ne prennent pas, sera partie. Et là, on va dire 2 mois. Alors, je préfère dire 3 mois pour être prudent, mais c'est vrai qu'on a une très bonne idée du résultat à 2 mois.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Jacquine, d'avoir accepté notre invitation. Celles ou ceux qui voudraient améliorer ou changer quelque chose au niveau de leurs fesses ont toutes les infos en main désormais. Merci encore, docteur.
Europe 1, 11h30. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être, et nous nous lançons tout de suite dans la partie tendance de notre magazine. Et à midi, ce sont vos estomacs qui nous faisons du bien en premier. On va démarrer toujours par la chronique gastronomie. C'est vous qui l'apportez aujourd'hui, Geoffrey Cagne, et vous allez nous parler d'un produit qui fait quand même l'unanimité, hein, on peut le dire. Bonjour.
C'est ça, bonjour. Le chocolat la gourmandise comme d'habitude.
Très bien. Ensuite, ce sera à votre tour, Séverine Pierron. Vous êtes notre experte dans les tendances jeunes. Et donc ce midi, on va voir que côté amour, la génération Z a décidé de faire autrement.
Oui, la génération Z n'utilise plus les applis de rencontre, c'est complètement ringard, c'est pour les vieux.
Ah ok, d'accord. Et puis enfin, on va terminer avec les conseils mode de Sophie Braffman. Je crois que vous allez nous parler d'une tendance qui va ravir ceux qui détestent, comme moi par exemple, perdre leur temps dans les magasins.
Mais oui, parce que le cycliste, le pantalon flair ou les jeans taille haute ou taille basse, ça ne va pas tout le monde, Julia. Et du coup, c'est bien d'avoir un personal shopper, mais bon, ça a un certain prix, alors il y a d'autres petites astuces pour savoir quoi acheter.
Eh bien merci Sophie, ce sera à vous dans très peu de temps, mais tout de suite on enfile nos tabliers dans Bien fait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Eh bien voilà, il est midi et c'est l'heure de parler de gastronomie. Et on va passer du côté du monde merveilleux du sucré avec vous, Geoffrey Cagne. Alors on peut le tartiner, le déguster fondant ou en tablette, en coulis, je ne parle pas de vous, mais bien sûr du chocolat de toutes les couleurs. Vous avez la parole.
Alors moi, quand je parle chocolat, déjà, je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense tout de suite à Charlie la chocolaterie.
Ah oui, c'est vrai, évidemment.
Et cet univers un peu magnifique, en fait, il faut savoir que le chocolat a plusieurs vertus. Il n'a pas que la vertu aphrodisiaque, il a une tonne de vertus. Et la plus grosse des vertus, c'est la gourmandise. La gourmandise, parce qu'on le trouve sous plusieurs matières. Donc on le trouve en poudre, on le trouve en tablette, on le trouve en bonbons. On le trouve aussi en chocolat lait, chocolat blanc, chocolat noir.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que moi, j'ai...
C'est lequel, votre préféré à
Alors,
vous ?
Alors, ma petite préférence, c'est le lait, parce que j'ai gardé mon âme d'enfant.
Bah oui.
Voilà, mais c'est vrai qu'après, le palais grandit, on prend un peu comme le bon vin, la maturité.
Ouais, il paraît ça, parce que moi, je suis restée bloquée au chocolat blanc, hein, j'ai 38 ans.
Bah, attendez, excusez-moi, le chocolat blanc, certains pâtissiers disent que c'est pas du chocolat.
C'est pas du chocolat.
Mais il n'y en a pas un petit peu dedans, quand même.
En fait, il y a juste du beurre de cacao. Du lait,
déjà
du
mal.
Sucre, voilà.
Moi, ça me suffit, c'est très bien.
Oui, mais on n'a pas ce goût cacao, en fait. Mais c'est vrai que les enfants préfèrent le chocolat blanc et ensuite, on passe au lait. Alors moi, je me suis un peu bloqué. Je suis resté bloqué au lait, mais c'est vrai qu'après le noir, ça a quand même un goût un
Sophie,
peu...
Sophie, Séverine, vos couleurs préférées de chocolat ?
Non, moi, c'est chocolat noir.
Ah, moi, c'est au lait et blanc, mais il paraît qu'on n'est pas une vraie amatrice de chocolat quand on mange ce chocolat.
Je suis la seule adulte autour de cette table.
C'est ça, c'est la conclusion, je pense, effectivement. Alors, comment on fait du chocolat, justement ? Parce que bon, j'ai compris que le chocolat blanc, bah, il y avait avec pas grand-chose de chocolat dedans. Mais c'est comment ça se fait le chocolat ?
Alors, comment on fait le chocolat ? En fait, après la récolte de la cabosse, on passe à l'écabossage. Donc l'écabossage, en fait, c'est l'extraction des graines de la cabosse qui deviendront fèves de cacao ensuite.
C'est quoi la cabosse ?
Oui, parce que là, on
ne
sait pas.
En fait, la cabosse, c'est vraiment le fruit.
Moi, je connais la fée carabosse. Mais
donc c'est la cabosse, c'est vraiment le, c'est comme une coco. Ben voilà, là, on a la cabosse. Okay. C'est comme ça qu'après, on extrait tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ensuite, vient la fermentation de la fève et on la laisse fermenter pour avoir vraiment ces goûts qui se développent du chocolat, en fait, du chocolat noir. Et c'est là qu'on sent vraiment ce goût cacao. Ensuite, une fois séché, on va les torréfier pour qu'elle développe encore plus d'arômes et qu'on ait encore ce goût chocolat. Et j'aime bien, j'entends... quand est-ce qu'on goûte
Ils sont où les chocolats
fait, je crois qu'elles veulent juste simplement goûter à table.
C'est bientôt fini le co-magistral sur le chocolat.
Donc ça n'intéresse personne, donc on va passer à la dégustation.
Exactement. Voilà. Une recette simple pour faire une gourmandise chocolatée à la maison.
Voilà, alors une recette simple, moi je part toujours sur une idée de praliné. Donc, vous prenez des noisettes, des amandes, 50-50. Vous les torréfiez au four.
Alors, torréfier.
Torréfier.
Qu'est-ce à dire ?
Donc, torréfier des amandes et des noisettes, c'est simplement les mettre au four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes afin de faire sortir, développer tous les arômes. Ou vous pouvez même les torréfier à la poêle.
Oh, c'est bien. Sans matière grasse, hein, comme
sans
ça.
Matière grasse. Et en fait, généralement, on peut émonder, donc enlever la peau après. Ou vous pouvez les acheter sans peau. Donc ça, c'est déjà torréfié.
Première étape.
Et vous faites un caramel à sec. Donc un caramel, vous mettez la
expliquez
poêle.
Expliquez le caramel à sec aussi, hein, parce qu'elle a les yeux.
Donc ma poêle sur le feu ou ma casserole et j'ajoute du sucre petit à petit afin de faire un caramel.
Du sucre à roux, du sucre blanc.
Du sucre semoule, du sucre blanc.
Et vous l'ajoutez à quoi ?
Et je l'ajoute justement à ces amandes et noisettes torréfiées.
Ah d'accord, c'est ça qui fait le caramel.
Le tout dans un mixeur. Ouais. Donc un mixeur, c'est un petit élément avec des petites hélices. Non, mais maintenant, je dois juste expliquer.
Il faut le brancher, le mixeur.
C'est
ça
toujours
marche.
Mieux de le brancher.
Et on ne met pas les doigts dans la prise.
Alors, jamais.
Donc tout ça dans le mixeur. On mixe bien, ça fait une poudre en fait après.
Ça fait une poudre qui devient un peu lisse et qui devient... L'huile des amandes et des noisettes va sortir et qui va former un praliné.
D'accord.
Un praliné, vous ajoutez un peu de chocolat blanc, à peu près 20% de la masse en chocolat blanc.
Pourquoi blanc ?
Blanc parce qu'en fait, vous n'avez pas de beurre de cacao à la maison. Donc
ouais,
on va utiliser du blanc.
Donc ça va être gras quoi en fait.
Ce qui va permettre de faire figer cette masse. Vous la mettez dans un petit bac à glaçons.
Ça va, vous savez ce que c'est un bac à glaçons ?
Non.
Alors un bac à glaçons, voilà. Non mais c'est pour faire des petits carrés.
D'accord.
Que vous allez démouler ou autre chose en silicone ce que vous avez. Et après, on va l'enrober de chocolat. Et il faut savoir qu'il y a une température qui est très importante pour le chocolat.
Oui, il faut le chocolat, tempérer le chocolat.
Voilà.
Ça, je ne savais pas moi non plus.
Par contre, Julia, elle connaît tous les aspects très techniques.
Mais j'ai jamais compris ce que ça voulait dire tempérer
alors,
le chocolat.
Tempérage, c'est simplement qu'il faut monter le chocolat noir, par exemple, parce que les trois ont une température
alors, le noir,
différente.
Il va à combien ?
Le noir, la courbe, c'est 55 au début. On redescend à 28 et on remonte à 31-32.
C'est dur quand même tout ça.
C'est
pas
technique.
Facile, hein.
Bah oui,
c'est technique, mais on ne peut
on
pas...
On a perdu Sophie Braffman là
non,
aussi.
Mais là,
hein,
je vais l'acheter tout près, quoi, je le sens.
Mais ça, c'était des températures pour le chocolat noir, pour le chocolat au lait.
Alors, pour le chocolat au lait, on descend d'un degré.
D'accord.
Et on 5 degrés au commencement, donc on 50 degrés, pas au-delà, parce que, en fait, plus on a de beurre de cacao, plus on a de sucre, plus le chocolat va cuire et brûler.
Et le chocolat blanc ?
Et le chocolat blanc, on descend encore de 5 degrés
d'accord.
au départ et toujours 1 degré à 2 degrés pour le reste de la
mais
courbe.
Mais donc ce chocolat-là, on le met dans nos bacs à glaçons, là, c'est ça ?
Alors,
pour enrober ce qu'il y a à l'intérieur ?
Non, le praliné, ce qui est mélangé au chocolat blanc, on le fait figer et après, on va l'enrober avec le chocolat noir, le chocolat blanc ou le chocolat au lait.
Et si vraiment on n'a pas envie, c'est quoi les adresses que vous nous conseillez pour acheter du chocolat ?
Vu qu'elle a rien compris.
J'ai cru comprendre que personne n'avait compris. J'espère que les auditeurs vont
mais
comprendre
si, ils ont compris.
Ma recette.
Ah, ils sont plus malins.
Ou alors, je vais laisser mon numéro de téléphone et je suis dispo H24 pour tous les auditeurs. Alors, une bonne adresse à Dijon, Fabrice Gilotte, qui est un génie du chocolat. Et j'en suis fan. Non,
tu
là,
es
c'est
en train de prendre ses billets pour Dijon, là, ça y est.
On me montre là, c'est cela ? Non, c'est non, ça c'est les miens. Parce que chez nous aussi, 24 rue des Moines, on fait du chocolat. Donc j'ai de la tablette, justement, que je vais faire passer.
S'il vous
donc
plaît.
J'ai une tablette chocolat noir avec du caramel beurre salé à l'intérieur.
J'adore ça.
J'ai une tablette chocolat noir avec du praliné.
Vous ne connaissiez pas Jeffrey Cagne, hein, je crois encore, Sophie Braffman.
Et là, je découvre.
Et là, on a des bonbons de chocolat, parce qu'on appelle ça des bonbons enrobés. Donc avec de la. avec tout ce qu'on peut trouver de meilleur dans les chocolats.
Merci beaucoup Geoffrey pour cette chronique qui nous a mis l'eau à la bouche. Merci également pour vos conseils simples qu'on va pouvoir reproduire très bientôt chez nous pour le plaisir de tous. Vous restez avec nous puisque les deux chroniqueuses suivantes sont prêtes à dégainer elles aussi leurs tendances, leurs conseils. Séverine Pierron va nous expliquer comment la génération Z, les jeunes nés dans les années 2000, voient l'amour aujourd'hui. Et puis Sophie Braffman va nous parler de shopping personnalisé sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en train de partager avec vous les meilleures tendances du moment, nos bons plans ou ces décryptages qui nous aident à mieux comprendre la société actuelle. Et justement, c'est ce qu'on va voir avec vous, Séverine Pierron. C'est que la génération Z voit désormais l'amour différemment des générations précédentes. Expliquez-nous.
Alors la génération Z, juste je précise, en effet, ce sont ces jeunes qui sont nés dans les années 2000, qui sont nés quasiment avec un smartphone à la main. Vous savez que le smartphone est arrivé à la fin des années 2010, non, 2009, donc 2000, en fait, à la fin des années 2000, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, les adultes, comme nous tous, nous sommes parfois sur les applis de rencontre. En fait, les ados, eux, ils sont plus du tout sur les applis de rencontre, ils trouvent ça complètement ringard.
Ah bon ?
Ouais, il n'y a plus du tout de jeunes sur Tinder, sur Adopte un mec, sur Fruits, sur Appen, sur toutes ces applis de rencontres. Et bien maintenant, c'est fini. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe, en fait, notamment sur Instagram, en fait. Donc, comment est-ce que ça se passe? Tout simplement sur Instagram avec la géolocalisation. Ça, c'est une première option. Alors, ça drague vraiment sec sur Instagram. Les ados, ils sont à fond. Donc, il n'y a plus du tout de jeunes sur les applis de rencontres. Parce que les applis de rencontre, maintenant, c'est vraiment les seniors qui sont...
Mais vous appelez seniors des gens qui ont 25 ans ?
Non, pas du tout, mais les applis de rencontre, maintenant, c'est par exemple, vous connaissez Disons Demain, toutes ces applis de rencontre-là.
Ah, c'est quoi Disons Demain, par exemple ?
C'est une appli de rencontre pour les personnes qui ont plus de 50 ans.
Ah, voilà. Génial !
Voilà. Donc ça fonctionne très très bien, mais évidemment, comme ça a été, si vous voulez, coopté par les plus anciennes générations, les vieilles générations... Les jeunes s'en détournent. Et donc, ils utilisent tous les outils qui sont à leur disposition, notamment Instagram, mais aussi d'autres options qui sont assez intéressantes parce que qui ont un petit goût un peu vintage.
Du type la
newsletter, par exemple.
C'est quoi ça ?
Alors aux États-Unis, alors c'est pas arrivé encore en France, c'est une tendance vraiment, pour l'instant, un signal faible, comme on dit. En fait, c'est une newsletter qui existe aux États-Unis où c'est pour les gens en fait, qui ont envie de se rencontrer un peu à l'ancienne, c'est-à-dire... qui donnent en fait des informations. Ils répondent à un questionnaire. C'est une jeune américaine qui a lancé ça. Ils répondent à un questionnaire où ils donnent un peu leur goût. Ils se décrivent. Et ensuite, cette jeune américaine écrit leur profil, en fait. C'est pas eux-mêmes qui vont se vendre, si vous voulez.
Donc, comme une marieuse, quoi.
Voilà, un peu, vraiment à l'ancienne. Et ensuite, on s'inscrit, évidemment, à la newsletter et on reçoit chaque semaine, en fait, quelques profils de célibataires.
Oh, c'est génial.
Ensuite, elle fait le go-between. Elle fait, comment on peut dire en français, je ne sais même plus le...
Le lien.
L'entremetteuse,
quoi.
L'entremetteuse, merci.
Et donc, il n'y a plus, du coup, en fait, tout ce choix qu'il peut y avoir sur les applis de rencontre. C'est plus sélectif, quoi, en fait.
En fait, si vous voulez, ce qui a un peu lassé les jeunes générations, c'est ce truc du swipe permanent, c'est-à-dire...
C'est l'avalanche,
de tout
en fait,
le temps. Voilà, trop de choix, trop de profils, puis se vendre tout le temps,
expliquer
presque
le swipe,
comme un produit.
Le swipe.
Le swipe, c'est quand on, avec son doigt, quand on, sur les sites de rencontre, enfin, les applis de rencontre...
On va
quand
à gauche
on,
ou à droite,
voilà,
on jette
quand
ou on
dit oui
quoi.
Ou non, voilà. Donc, il y a quelque chose d'assez mécanique et de pas très romanesque aussi. Et donc, cette nouvelle génération a des envies de romanesque, a des envies aussi d'authenticité, de proximité. Voilà.
Et sur TikTok, on sait que les jeunes aussi adorent ce réseau social. Pourquoi TikTok pour draguer, c'est ça ?
Alors TikTok, bien sûr, est donc un nouveau réseau social, comme vous le savez, plutôt axé vidéo. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les jeunes s'enregistrent. Ils enregistrent une petite vidéo de présentation. Alors évidemment, avec les codes de TikTok, donc assez humoristique, avec il y a des petits légendes, des petits gimmicks, de la musique, évidemment. Et ils s'enregistrent comme ça, ils balancent ensuite la vidéo. Et ensuite, soit il y a des commentaires, soit il y a des messages. Vous savez, c'est comme sur Instagram. Il y a les DM, les messages
privés.
Messages privés. Et c'est comme ça, en fait, que ça match, tout simplement. C'est comme une bouteille à la mer lancée avec un peu d'humour pour se présenter de manière un peu alternative et plus comme sur les sites de rencontres, on remplissait sa fiche, alors j'aime ci, j'aime ça. Et
on se met un peu en scène. Quoi,
on se met un peu en scène et puis on raconte un peu avec les choix de musique, avec aussi le ton. Un peu sa personnalité. Et puis, il y a aussi évidemment des hashtags dédiés, comme par exemple le hashtag boyfriend application, qui veut dire en fait candidature pour être un petit ami. Donc bon, souvent, enfin, je vous invite à regarder sur TikTok Boyfriend Application, c'est assez rigolo. Il y a beaucoup d'humour et voilà. Et donc c'est une manière de se rencontrer qui est beaucoup plus fraîche, quoi.
Alors Sophie Braffman, je sais que vous n'êtes pas en recherche d'amour du tout. Non, mais si vous aviez envie. Voilà, mais si vous aviez dû, vous auriez mis quoi dans votre petite annonce?
Ah, qu'est-ce que j'aurais mis pour me présenter dans ma petite annonce?
Petite vidéo TikTok de Sophie Braffman.
Oh, bah, femme intéressante, sensible. J'ai beaucoup de défauts, je suis hyper gentille, hyper sensible. Non, j'aurais tourné ça un peu sympathique.
Vous auriez pris du chocolat dans la main, je pense.
Non, je me serais mis torse nu.
Oui, c'est ça. Ah là
là. Alors, il y a beaucoup d'hommes torse nu.
Vous auriez dit que vous portez des crocs? Vous auriez avoué ça? Peut-être pas tout de suite. J'aurais attendu un petit peu parce que c'est la surprise, c'est le meilleur pour la fin. Hein, ouais, tout de suite.
Parce que lundi, on a vu vos crocs, ça faisait envie. Hein.
Ouais, mais bon, Séverine, elle aime bien les crocs, je crois aussi.
J'aime beaucoup les bottes.
Non, mais c'est intéressant, n'empêche, ce qui se passe sur TikTok. C'est comme un CV sentimental en
exactement,
vidéo.
Voilà. Mais avec de l'humour et puis un peu décalé pour pas être premier degré, quoi.
Bon, Cupidon is back. Merci beaucoup, Séverine, pour ce décryptage des dernières tendances côté amour chez les jeunes qui nous entourent. On va à présent passer de l'amour à la mode en un claquement de doigts. Et donc, c'est à vous de jouer, Sophie Braffman. Là, à l'inverse, on délaisse le réel, on va faire son shopping sur Internet.
Alors, exactement. Bon, on pourrait avoir envie de continuer avec le réel, mais c'est pas toujours évident de trouver la tenue qui nous va, la tenue qui embellit notre silhouette. Oui, parce que si on suit uniquement la mode, la probabilité de se retrouver avec des tenues désastreuses est quand même très forte. Hein. Tout ne va pas à tout le monde, il faut le dire. Par exemple, le jean taille basse qui dévoile une jolie raie du maçon, on en parlait tout à l'heure, ça peut être un peu gênant pour certaines personnes. Alors, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il y a des couleurs qui vont plus ou moins bien aussi à certaines. Est-ce que les filles, vous connaissez un peu votre colorimétrie?
Moi, je mets du vert. Moi, beaucoup de vert.
D'accord. Vous êtes plutôt comme vous, hein, Sophie. Comme moi, on est un peu donc tonalité un peu froide. Alors, ouais. En fait, il y a deux. Je vais schématiser un peu, mais il y a deux familles de couleurs. Donc, il y a les tonalités chaudes et les tonalités froides.
C'est quoi ça?
Je vois que la couleur
chocolat, ça lui va assez bien, je trouve.
Ah, alors, il y a un petit test à faire. C'est très simple. Les tons froids sont ceux dans lesquels il n'y a pas de pointe de jaune, et à l'inverse, les tons chauds, ce sont dans lesquels il y a une pointe de jaune. Par exemple, prenez des bijoux et vous les mettez près de votre visage. Donc, c'est facile à faire avec des boucles d'oreilles. Si vous êtes plutôt bijoux dorés, vous êtes une tonalité chaude. Si vous êtes plutôt argent, vous êtes une tonalité froide.
Chaude, hein, Séverine,
voilà,
elle a des,
Séverine
de l'or,
est plutôt
là,
chaude.
Et,
avec
moi, et moi, je suis quoi?
Eh bien, vous avez...
Ouais. Mi-chaude, mi-froide.
Mi-chaude, mi-froide. Vous êtes un peu entre les deux. Donc, vous pouvez vous permettre une palette de couleurs extrêmement large. Ah, non, mais c'est intéressant. On peut le faire avec un tissu aussi, par exemple. On prend un tissu noir ou un tissu marron. Dans le marron, il y a une pointe de jaune. Donc, vous allez aller tirer plutôt vers des couleurs avec une pointe de jaune. Et si vous êtes plutôt noir, un bleu électrique, par exemple, Julia Quin, qui pourra vous aller très bien. Bon, ça, c'est déjà un petit conseil en ce qui concerne les couleurs. Ensuite, on va passer au style. Parce que là aussi, il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser, notamment. On peut changer de vie parfois, vous savez. Alors, on prend du poids, hein, on a eu des enfants, ou alors autre chose. Enfin bref, on a
mangé trop de chocolat de Jeffrey.
On a mangé trop de chocolat de Jeffrey. On parlait de ça tout à l'heure en off avec Séverine. Mais voilà, une bonne amie, par exemple, voilà, qui a eu deux enfants, tac, hop, elle met des jeans taille basse. Ben non, ça ne va pas, c'est pas possible.
Vous êtes des gentilles copines, non?
Oui, mais du coup, elle a voulu l'aider, elle lui a conseillé le jean taille haute et j'ai trouvé ça vachement bien.
C'est gentil.
Ou alors, on change de métier, ça arrive aussi. Par exemple, on a un challenge professionnel, on a une envie nouvelle et donc on a envie d'avoir les conseils d'une personnelle shoppeuse. Alors, problème, il en existe plein évidemment sur le web, c'est cela a un coût. C'est pas forcément évident toujours de se payer les services de quelqu'un. Il se trouve que Séverine le fait gratuitement, hein, n'hésitez pas à lui écrire, et elle le fait fort bien. Mais du coup, c'est pas toujours évident. Alors, c'est la raison pour laquelle s'est créée notamment une marque qui vous propose des box qui arrivent à domicile. Ça s'appelle Loquero, c'est européen. Il y a 2 millions aujourd'hui d'adeptes qui sont inscrits à ce site. Et en fait, c'est assez simple parce que vous allez répondre à un questionnaire. Mm-hmm. Et en fonction de ça, donc imaginez ce site qui est marié, entre guillemets, avec il y a 200 marques environ qui travaillent avec eux. En fonction de vos besoins, ils vont vous envoyer une box.
Oh, pas
bon,
mal.
J'ai rencontré Frédéric Goliard, directeur marketing de Loquero, et qui m'a expliqué comment Oyer Urrutia, ce sont des Espagnols, a eu la bonne idée de Loquero en 2015.
Le créateur et CEO de Loquero rentre de vacances avec sa compagne. Elle lui commande qu'elle a une vie tellement remplie entre la carrière et la famille qu'elle ne prend plus du tout de soins pour elle. Elle ne fait plus de shopping, elle n'a pas le temps de faire les magasins. Et du coup, à ce problème, Oyer essaye d'apporter une solution. Il constate qu'il n'y a pas de service de personal shopper en Europe. Et c'est comme ça que l'idée est venue de créer Loquero.
Moi, c'est marrant parce que tous les soirs, je dis des trucs comme ça à mon mari. Il ne crée pas une boîte pour moi.
Mais gentil mari,
c'est vraiment un gentil mari, donc très attentionné. Et donc, on va essayer, nous aussi, de faire des demandes de personal shopping comme ça.
Mais ça veut dire qu'il y a une personal shoppeuse qui s'occupe en direct de la cliente?
Alors,
comment ça marche?
Il y a une personal shoppeuse, Julia, derrière chaque cliente. Donc, une personne physique qui va décrypter votre problématique. Et Delphine Vaillant, qui est responsable du style, elle nous explique comment ça fonctionne.
Alors c'est super simple, vous avez juste à remplir un questionnaire sur vous, sur votre style, votre morphologie ou encore votre budget. Et ensuite, une personal shopper sélectionnera 5 articles spécialement pour vous, selon votre profil. Donc vous recevrez ces articles directement chez vous, vous pourrez les essayer tranquillement et garder uniquement ce que vous aimez.
Bon, et Sophie, vous avez également une bonne idée, une box qui accessoirise ou personnalise vos tenues à l'infini.
Oui, parce que là, on a vu alors une box qui vous envoie directement des tenues, hein, que vous allez bien sûr pouvoir renvoyer si celles-ci ne vont pas, mais j'ai pensé à une box plus accessoire, et celle-ci s'appelle Box Style. Donc l'idée, c'est par exemple, vous avez toute une petite robe noire dans votre armoire.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Même Geoffrey.
Alors, vous allez être très content de pouvoir glamouriser cette petite robe noire. Imaginez, Geoffrey, vous avez un gala, par exemple, vous avez votre robe noire la journée, classique, vous la mettez avec une petite paire de baskets, hein, ou de sneakers, ou d'escarpins pour être un peu classique. Hop, le soir venu, vous avez envie de vous transformer en Cendrillon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous envoie, par exemple, des petites épaulettes bijoutées.
Ah, c'est génial.
Voilà.
Juste à glisser sous la robe.
Exactement, que vous allez mettre au-dessus. Comme ça, vous avez des épaulettes. Oui, parce qu'il y a un côté bijou, vous savez. Donc, ça donne vraiment. Donc, ça rehausse votre silhouette. Ou alors une ceinture. Vous pouvez recevoir, par exemple, là aussi, ça va être en fonction de votre demande, une casquette ou une cape pied de poule. Je pense à Mélanie, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, une cape réversible, très jolie. Et qui, du coup, va habiller une tenue que vous avez déjà. Ce qui est intéressant dans le concept, c'est que vous n'avez pas besoin de racheter votre garde-robe. En gros, vous composez avec ce que vous avez déjà à la maison et puis vous accessoirisez. Bien sûr, après, il y a des personnelles shoppeuses à domicile. Bon, ça, c'est un autre budget. Hein, on en parlera ultérieurement. Ça peut être sympa en tout cas de faire peut-être une séance pour qu'elle vous aiguille et vous dise, tiens, ça va.
Ça, dans votre dressing, il faut tout jeter. Vas-y.
Voilà. Alors, vous savez qu'on ne porte quasiment que 20% de son dressing.
Ouais,
quand même.
Oui, on s'en rend bien compte. Hein. Voilà. C'est pas mal de faire venir peut-être une fois, de se faire payer ça pour Noël. Ouais. Quelqu'un qui vient faire un audit de dressing et qui nous fait jeter tout ce qu'on
a sorte
en
Marie Kondo,
Séverine,
par exemple.
Séverine, voilà, la tête, ça vous intéresserait aussi chez vous. Hein.
Non, pas du tout, j'ai absolument pas besoin de conseils mode, je suis parfaite.
C'est vrai, vous avez de la chance. Parce que
mais
moi,
vous mettez tout ce qu'il y a dans votre dressing, vous mettez tout.
Sinon, je revends sur les sites. Ça, c'est pas mal aussi.
Ah, ça, on en parlera. C'est une bonne idée pour se faire des sous avant Noël. Ça.
C'est pour ça que je mets pas mes robes alors.
Merci beaucoup, Sophie Braffman, pour cette découverte qui fait gagner du temps et qu'on veut quand on veut être stylé, bien sûr. Cette émission est terminée. On se retrouve lundi à 11h. Et Julia, lundi, quel sera le programme?
Alors, lundi, on va se questionner sur un sujet important. Faut-il donner ou trouver un sens à sa vie? On en parlera avec le philosophe Frédéric Lenoir, l'auteur du livre Jung, un voyage vers soi.
Et puis lundi, Julia, il y aura de nouveaux sujets de tendance, de la santé, de la gastronomie. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos questions sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.